Bonsoir, bienvenue à ce Pôle Info Santé. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux, comme à chaque fois, de vous accueillir ici. 4 rendez-vous par an, et c'est le premier pour cette année 2016. On se retrouvera le 7 avril prochain. Je vous donnerai le thème tout à l'heure en fin de conférence. Comme ça, je fais durer un peu le suspense. Puis ça vous fait rester jusqu'au bout, moi, parce que je suis sûr que vous êtes impatients de savoir quel est le thème du prochain rendez-vous. Alors, pour les petits nouveaux, est-ce qu'il y a des nouveaux ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois ? Ah oui, bienvenue à vous, on est heureux de vous accueillir. Il y en a qui viennent régulièrement, hein, j'en connais, je recommence à reconnaître les têtes maintenant. Merci de votre fidélité, bienvenue aux nouveaux aussi. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu, le Pôle Info Santé, c'est le fruit d'un partenariat entre le CHU, dont l'une des missions, évidemment, l'éducation à la santé, puis l'Espace Mendès France, l'endroit qui nous accueille ici, c'est un centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, bien, c'est de vous permettre, à vous, grand public, d'échanger avec des professionnels du milieu hospitalier, des généralistes aussi. Alors, on va présenter nos intervenants dans un instant. Ils vont vous exposer chacun leur tour leur sujet. Ils ont travaillé chacun sur un petit thème. Et puis ensuite, à la fin, une fois que les quatre auront fini, je viendrai vers vous et vous pourrez poser vos questions. Donc, le thème du jour, les mains, urgences et pathologies chroniques. Venez en discuter avec des spécialistes, ça tombe bien. Ils sont là, on les a aujourd'hui. Alors, à la fin des exposés, donc, je viendrai vers vous, je vous le disais, avec mon micro. Alors, je vais vous demander de parler dans le micro pour poser vos questions. C'est pas pour vous embêter, c'est uniquement parce que tout ce qu'on va se dire ce soir est enregistré et sera retransmis sur les sites internet du CHU et de l'Espace Mendès France. Ce qui va vous permettre, et vous allez voir, c'est super, de pouvoir tout réécouter. C'est-à-dire que si vous avez loupé un truc, vous allez pouvoir réécouter tout ce qui va s'être dit, tout ce que je vous dis là. D'ailleurs, j'en profite, je vais faire coucou à tous ceux qui nous écoutent sur internet. Voilà, comme ça, c'est fait. Si vous êtes timide et que vous n'avez pas envie de parler dans le micro, aucun souci. Vous avez dans vos petits documents qu'on vous a remis une feuille, théoriquement avec des lignes. Donc vous pouvez écrire votre question et moi, je la lirai. Alors, par pitié, ça fait, je ne sais pas combien, 8 ans, 9 ans maintenant que je fais ça. Écrivez le plus lisiblement possible pour que je puisse vous lire. On pourra faire un truc sur la vue bientôt. Vous avez également entre vos mains tous les documents donc complémentaires sur cette conférence. Et vous avez entre autres une fiche d'évaluation. Alors cette fiche, elle est, je le répète à chaque fois, super importante parce qu'elle nous permet d'améliorer chaque fois le rendez-vous. On a changé plein de choses, on a changé l'horaire, on a changé la façon de faire, on est en train de travailler sur des nouvelles présentations, on vous fera jouer peut-être un jour, enfin voilà, plein de projets. Donc n'hésitez pas à mettre vos réflexions si vous avez trouvé que c'était bien, que c'était pas bien, que c'était court, trop long, etc., que nos intervenants n'étaient pas intéressants. Le premier qui met ça, attention. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables, en tout cas de les mettre, s'il vous plaît, en mode avion, pour pas qu'ils sonnent pendant les interventions. Ça serait super sympa. C'est donc aujourd'hui la 110e conférence Pôle Info Santé à l'Espace Mendès France. Et je vais vous présenter nos intervenants. Docteur Raphaël Roland, bonsoir. Il est praticien hospitalier, chirurgien au service d'orthopédie traumatologie du CHU de Poitiers. Docteur Caroline Lozy, bonsoir. Praticien hospitalier, chirurgien au service d'orthopédie traumatologie du CHU de Poitiers aussi. Bruno Texereau, bonsoir. Cadre de santé, kinésithérapeute de rééducation au CHU de Poitiers. Et enfin, le docteur Jean-Yves Fontaine, bonsoir. Il est médecin généraliste. Vous êtes où exactement ?
À 200 mètres d'ici.
À 200 mètres d'ici, voilà, c'est un voisin. Je vous souhaite une bonne soirée. On va commencer d'ailleurs avec vous, docteur. Alors, bien dans le micro aussi pour qu'on puisse vous entendre.
Bonsoir. Donc, ce soir, c'est l'ostéoporose pour ce qui me concerne, puisque en plus, l'ostéoporose concerne tout le monde. A priori, les femmes plus que les hommes, on en verra pourquoi, mais absolument tout le monde. L'ostéoporose est une pathologie du squelette osseux puisqu'elle ne touche pas le cartilage, qui est caractérisée par une diminution de la masse osseuse, mais aussi par une altération de la structure. Cet état fait suite à une période d'ostéopénie, c'est-à-dire que l'os se raréfie, caractérisée par donc une raréfaction osseuse qui, si elle n'est pas prise en charge correctement, va aboutir à une ostéoporose. L'os va devenir ainsi plus fragile, moins dense, de structure moins solide. Il va donc devenir moins résistant, ce qui va être un facteur favorisant des fractures qui vont pouvoir, selon le stade, survenir pour des contraintes parfois très minimes. Les facteurs favorisants. Donc, en tout premier lieu, c'est l'âge, mais aussi l'exercice physique insuffisant, car c'est l'activité musculaire qui permet une bonne fixation du calcium sur l'os. Un autre facteur important, une alimentation pauvre en calcium au cours de la vie et même dès l'enfance. Un autre facteur, l'insuffisance en vitamine D du fait d'une exposition solaire insuffisante ou également suite à une alimentation pauvre en vitamine D. On a beaucoup de vitamine D, par exemple, dans les poissons gras, et tout le monde se rappellera l'huile de foie de morue qu'on a voulu donner à certains il y a fort longtemps. L'amaigrissement, quelqu'un qui perd du poids, surtout de façon rapide et de façon importante, va présenter une décalcification osseuse importante. Une consommation excessive d'alcool, de tabac et de caféine pour les aliments les plus fréquents. Une problématique à part, la ménopause. On a dit beaucoup de choses à ce sujet et il est bien certain que les femmes ménopausées sont plus touchées par l'ostéoporose que les hommes et que les femmes non ménopausées, bien sûr. Or, la ménopause survient en général autour de 50 ans, ne s'accompagne pas obligatoirement d'une diminution des activités physiques ou des expositions solaires de façon significative. À la ménopause, l'organisme produit de moins en moins d'hormones. Or, les œstrogènes ont un rôle sur la formation de l'os nouveau, la construction osseuse. Il va donc y avoir un déséquilibre et les phénomènes de destruction osseuse ne vont plus être correctement contrebalancés par la formation osseuse. On voit donc que plus la ménopause va être précoce, plus le risque d'ostéoporose sera important, d'où les nécessités de surveillance. Concernant cette surveillance, il y a bien sûr l'ostéodensitométrie, mais il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire par vous-même ou faire ou demander à votre généraliste s'il ne le fait pas. C'est un geste simple, sans aucun impact financier, c'est la mesure de la taille qui est un très bon facteur du risque puisque les os de la colonne vertébrale se tassent en cas d'ostéoporose et on le voit très bien quand on mesure, moi je fais de la médecine générale, mais je fais beaucoup d'expertise, surtout de l'expertise. Et donc, dans toutes mes expertises, je mesure les patients et les patientes. Et on est très souvent, enfin, les gens sont très souvent étonnés. On leur dit, oh, ben, vous mesurez 1m64. Ah, ben non, docteur, je faisais 1m70, etc. Eh bien oui, parce que chaque vertèbre va perdre au fil des ans quasiment 1 mm, et d'autant plus s'il y a en plus une ostéoporose importante. Certaines thérapeutiques sont aussi un facteur d'ostéopénie et d'ostéoporose, essentiellement les traitements corticoïdes. Et il y a certaines maladies qui ont nécessité, dans des âges plus jeunes, des corticothérapies à long terme qui vont entraîner, surtout si ça n'a pas été pris en compte, qui vont entraîner donc une ostéoporose. Et malheureusement, ces traitements sont indispensables. Ce ne sont pas, et ça il faut le rappeler, les corticothérapies courtes, par exemple, qu'on peut donner sur 4 ou 5 jours dans des pathologies ORL qui vont induire une perte osseuse. Et on a souvent cette question auprès des gens qui ont peur pour des thérapeutiques de 5 ou 6 jours ou de 4 à 6 jours. Non, ça ne peut pas induire de perte calcique. Un sujet important, la prévention précoce de l'ostéoporose. Il est très important de prévenir, comme pour toute maladie, plutôt que de guérir. Il faut donc éviter les facteurs de risque dès le jeune âge, par une alimentation suffisante en calcium, une exposition suffisante à la lumière solaire, une activité physique suffisante et un poids idéal. Alors, on va voir les corrélations, bien sûr, le poids idéal, les jeunes, effectivement, qui font plus de canapés que de physique. On voit les problèmes de prise de poids très importantes actuellement, entre autres par l'alimentation qui n'est pas équilibrée et par le manque d'exercice. Exercice physique. Celui-ci sera d'autant plus important dans le cas qui nous intéresse qu'il sera fait de façon pluri-hebdomadaire. On dit qu'il faut mieux faire régulièrement une demi-heure, mettons 3 fois par semaine, de sport ou d'exercice physique, plutôt que de faire 2 heures de course à pied dans la semaine. C'est ce qui a été noté. Ce n'est pas la durée de l'exercice qui compte, mais sa fréquence et sa régularité. Une autre notion, c'est que l'activité physique doit être faite en charge. Par exemple, les sports où le corps est en partie soutenu ont nettement moins d'intérêt. Le vélo, le canoë, on est assis. La natation, le corps est suspendu dans l'eau, il a un moindre poids. Or, il faut mieux, pour avoir une bonne intégration calcique, avoir des sports totalement en charge. Concernant l'alimentation, il faut bien sûr une alimentation suffisante en calcium. Bien sûr, vous connaissez les produits laitiers, les légumes verts, maintenant le soja. On utilise de plus en plus de soja, mais aussi on oublie souvent les eaux, dont les plus chargées en calcium sont l'eau d'épart, l'eau de Taliance, qu'on trouve nettement moins facilement, le Contrexéville, de façon moindre, Badois, Vittel, Volvic, et très peu de calcium dans Evian et Vichy. On peut également prendre de l'eau du robinet. Si vous connaissez sa titration en calcium, elle peut être obtenue sur vos factures en eau. Il y a souvent une feuille qui accompagne les factures en eau où c'est expliqué la teneur en calcium. On peut aussi demander à la mairie, au service des eaux de la mairie de Poitiers, si vous ne savez pas, ils vont vous indiquer la teneur en calcium de l'eau. À Poitiers, il y a une teneur en calcium qui est relativement importante. Bien sûr, si vous avez un adoucisseur, cette teneur en calcium, vous pouvez la régler par vous-même. Et on dit toujours qu'il faut laisser le robinet d'eau de la cuisine pour éventuellement prendre l'eau pour la boisson, non branchée pour l'eau froide sur l'adoucisseur. La vitamine D. Cette vitamine permet, on l'a vu, d'une part, une meilleure absorption du calcium par l'intestin et d'autre part, une meilleure fixation du calcium sur les os et les dents. Ce sont les rayons ultraviolets du soleil qui permettent sa synthèse au niveau de la peau. Au niveau alimentaire, la vitamine D est essentiellement présente, bien sûr, on l'a vu dans l'huile de foie de morue, mais plus personne ne veut en avaler, mais aussi, rappelons-le, dans le foie de morue, et le foie de morue, vous pouvez le mettre sur une tartine, c'est délicieux, c'est pas comme l'huile de foie de morue, et ça n'a pas du tout le goût terrifiant de l'huile. On le trouve également dans les sardines, le maquereau, les poissons gras en général, hareng, saumon. Les mesures curatives ou préventives dites tardives. Quand l'âge avance, il faut éventuellement supplémenter en calcium, en sachant qu'une dose idéale est de 800 à 1200 mg par jour. Et s'il n'est pas possible d'atteindre ces chiffres par l'alimentation, ou si l'ostéopénie ou pire l'ostéoporose est engagée, on peut supplémenter avec un apport médicamenteux de calcium, mais aussi de vitamine D. Là, il y a plein de médicaments, en sachant qu'il y en a en sachet, en comprimé effervescent, en comprimé, et qu'on se lasse très vite, en fait, de la prise de ces comprimés. Donc, il faut demander à changer dans ces cas-là. Il est plus facile de connaître son état vis-à-vis de la vitamine D que vis-à-vis du calcium, où il n'y a pas de corrélation véritable entre un taux sanguin ou un taux urinaire et la calcification osseuse. Par contre, au niveau de la vitamine D, c'est devenu très à la mode et on peut avoir un dosage sanguin qui est pris en charge d'ailleurs, la 25-OH vitamine D, pour savoir quel est le taux de vitamine D. Alors on est un peu surpris, et beaucoup de médecins s'interrogent là-dessus, parce que même à des âges très jeunes, on fait des dosages de vitamine D et on se rend compte que très 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 fréquemment, il y a une hypovitaminose D. Alors on s'interroge un peu sur les dosages, mais bon. En tous les cas, si le dosage est très bas, et on en voit quand même très souvent, il faut prescrire de la vitamine D. Il y a des ampoules à prise tous les 15 jours ou tous les mois, etc., et qui permettent de remonter, pas toujours facilement, le taux de vitamine D sanguin. Alors bien sûr, il faut aussi faire attention de ne pas trop supplémenter. Donc si on vous donne de la vitamine D, si on vous prescrit du calcium, il faut le surveiller par les dosages de calcémie sanguine, de calciurie, afin de savoir si vous n'avez pas trop d'apport. Et pareil pour la vitamine D, si vous n'êtes pas en surcharge. C'est relativement rare. Il faut savoir que l'hypercalciurie va pouvoir entraîner des calculs rénaux. Alors les thérapeutiques plus incisives, l'industrie pharmaceutique, c'est comme pour le diabète, il y a de plus en plus de personnes âgées, donc il y aura de plus en plus de personnes qui auront des problèmes d'ostéoporose, donc ils s'intéressent à ça. Et elle a beaucoup travaillé sur ce sujet, puisque l'espérance de vie augmente régulièrement dans le monde et que donc les risques d'ostéoporose augmentent également. Certains médicaments vont ralentir la raréfaction osseuse, mais ils peuvent aussi les rendre plus durs, rendre l'os beaucoup plus dur, plus sec, plus cassant. Il faut donc les utiliser selon des règles strictes. Ce sont pour essentiellement les biphosphonates. Et savoir qu'il faut ne pas les donner trop. En général, on ne dit pas au-dessus de 5 ans. Ou alors, il faut changer le type de thérapeutique pour éviter que l'os perde de sa souplesse et devienne plus cassant. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Chez la femme, mais aussi dans certains cas chez l'homme, il peut être intéressant de recourir à un traitement hormonal qui va ralentir la perte de la masse osseuse. Mais on sait que si, par exemple, une femme va avoir un traitement de sa carence œstrogénique ou enfin de sa carence à la ménopause, un traitement hormonal, on va le faire pendant un certain nombre d'années. C'est à se discuter entre le médecin, le gynécologue, la femme. L'arrêt brutal, parce que ça sera toujours un arrêt brutal du traitement, peut entraîner un rebond brutal d'une dégradation rapide de la masse osseuse. Donc il faut se méfier à ce sujet-là, il faut le savoir. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il existe des traitements hormonaux qui, tant chez l'homme que chez la femme, ont d'autres effets pouvant être délétères. Donc ces traitements hormonaux doivent toujours être faits sous surveillance médicale stricte. Mais le stade de la prévention et du traitement peut être dépassé. Il faut alors savoir protéger son patient et prévenir les chutes. Là, on voit ça dans les maisons de retraite, mais surtout maintenant dans les EHPAD qui fleurissent un peu partout. Et on arrive à des gens qui ont des troubles de l'équilibre, qui ont perdu de la masse musculaire, de la souplesse, qui ont des troubles aussi des vertiges et qui donc vont être des patients à chute. Maintenant, dans tous les établissements, on doit établir des fiches lorsque les gens chutent. Mais il faut savoir, et je pense qu'on ne les utilise pas suffisamment, qu'il existe des protections qui doivent être proposées aux patients ou tout du moins leur être données si eux-mêmes ne peuvent plus être demandeurs. Des protections, entre autres, de hanches et d'épaules qui font que pour des patients dont on veut éviter la perte d'autonomie, on les laisse vaquer, ce qui est tout à fait logique. En cas de chute, ils vont éviter de se faire les fractures les plus fréquentes de l'ostéoporose, qui sont bien sûr les fractures du col du fémur, mais aussi les fractures du poignet, etc. J'aimerais revenir en arrière un petit peu. Donc, il faut aussi penser à aménager les lieux de vie afin qu'ils soient le moins possible à risque, et cela hors des établissements usuels, EHPAD, etc. Ça, ce n'est pas toujours facile à admettre, mais je pense que le médecin généraliste doit faire comprendre aux gens qui veulent rester à domicile, et ce qui est vraiment l'idéal pour tout le monde, que, par exemple, tous les petits bibelots qu'il y a partout, toutes les petites tables basses, plus ou moins basses, les petites tables qui ne tiennent pas debout, et dès qu'ils vont vouloir s'appuyer sur ces meubles ou ces objets pour se sécuriser, vont se dérober. Et donc, il faut, si possible, dégager les espaces de circulation chez les patients qui restent à domicile, mais avec un risque important. Donc, quand se préoccuper d'une éventuelle ostéoporose ? J'aimerais répondre que cette préoccupation devrait être très précoce. Rappelons que l'on supplémente les nourrissons en vitamine D, éventuellement en fluor, qui agit aussi sur l'os, et ce, d'autant plus que leur peau est foncée, puisque le soleil a moins d'effet lorsque la peau est foncée. Quand on avance en âge, il faut se préoccuper donc du statut osseux, d'autant plus si les facteurs de risque sont présents, on les a cités plus haut. Un signe qui doit absolument faire rechercher une ostéopénie ou une ostéoporose, il y a aussi d'autres choses à rechercher, des maladies bien particulières, la fracture. Sauf d'autant plus qu'elle survient pour un traumatisme particulièrement bénin. On voit beaucoup de fractures vertébrales pour de simples chutes sur les fesses, des fractures du poignet sur une chute en avant avec une réception sur la main, une fracture du col du fémur sur une chute de sa hauteur. Le plus souvent, ces traumatismes, chez un sujet en pleine possession de son capital osseux, ne seraient pas responsables d'une fracture. On doit alors faire le bilan à la recherche, bien sûr, d'une fracture pathologique pour des maladies bien spécifiques, mais faire le bilan aussi par un dosage, on l'a dit, de vitamine D, de la calcémie, de la calciurie, et par une ostéodensitométrie qui va étudier la densité osseuse en général au niveau du col du fémur et d'une vertèbre, le plus souvent lombaire. En conclusion, l'ostéoporose est un phénomène qui nous concerne tous. Dès le plus jeune âge, on supplémente les nourrissons. À l'adolescence, période importante, une alimentation équilibrée contenant des aliments à teneur élevée en calcium est importante. Associée à une activité physique pluri-hebdomadaire, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir chez l'adolescent qui préfère parfois l'ordinateur, la console ou la télévision dans le canapé. Il faut aussi une exposition solaire régulière. Voilà. Tout au long de la vie, il faut conserver cette activité physique. Marche et course à pied peuvent suffire. Il faut conserver aussi une bonne alimentation et une exposition solaire, mais non agressive. Il faut surveiller sa taille, marqueur simple mais efficace. Surveiller sa teneur sanguine en vitamine D, puisqu'en cas de facteur de risque connu, entre autres chez la femme ménopause et tôt, il faut surveiller la densité osseuse. L'ostéodensitométrie est remboursée, pas toujours. Elle est remboursée en cas de signe d'ostéoporose, en cas de pathologie, en cas d'antécédent de traitement pouvant provoquer une ostéoporose, on a vu la corticothérapie, mais en cas aussi de facteurs de risque, tels une ménopause précoce, un traitement plus ou moins prolongé de corticoïdes, un indice de masse corporelle faible, des fractures spontanées sur traumatisme minime. Ce n'est pas un examen remboursé en simple prévention. Voilà, pour moi, terminé. Je vais passer.
Bonjour, moi je suis Raphaël Roland et moi je vous remercie déjà d'être venus aussi nombreux. Alors je vais vous parler des traumatismes de la main. Je vais d'abord commencer ma présentation par un court exposé sur la main, sa fonction et son anatomie surtout, mais de manière vraiment très succincte. Hein. Je ne vais pas être rébarbatif, rassurez-vous. Alors la main, déjà, il y a une face palmée. Nous, en chirurgie, on considère la face palmaire, qui est anatomiquement la plus riche, et la face dorsale, de l'autre côté. La main, c'est une somme en fait, de fonctions différentes. C'est-à-dire que vous avez en premier lieu le pouce, qui est de loin le doigt le plus important, et c'est le doigt qu'on s'efforcera toujours de sauver, quel qu'en soit le prix sur la main. Il faut voir qu'il n'y a aucun geste qu'on ne puisse faire vraiment de manière fluide sans le pouce avec la main. Vous pouvez faire quoi que ce soit, le pouce intervient toujours et c'est vraiment l'ultime raffinement de l'évolution qui fait que la main est une main, sinon c'est une patte. Ensuite, il y a l'index et le majeur qui servent plutôt pour les prises fines, c'est-à-dire coudre, écrire, des choses comme ça. Et le quatrième et le cinquième doigt, l'annulaire et l'auriculaire, qui servent pour les prises de force. Quand vous tenez un marteau ou quelque chose en force, c'est plutôt avec ces deux doigts-là. Donc c'est des choses qui rentrent en compte en fait quand on répare une main. Et par exemple, chez un travailleur manuel, les deux derniers doigts ont une importance majeure. Alors l'anatomie à proprement parler, on va commencer par ce qu'il y a de plus profond, c'est-à-dire le squelette. Alors pour chaque élément, je vous ai mis vu de la peau, mais vu de derrière. Alors, je ne sais pas si la souris... Oui, ça passe bien, oui. Ouais. Alors là, ça, on ne s'en occupe pas, c'est le poignet. Là, on parlera vraiment que de la main. Donc, ça commence ici. Donc, ici, c'est les métacarpiens. Donc, c'est. Je vous montre. C'est à ce niveau-là. Donc, au niveau du pouce. Hein. Donc, nous, en fait, on ne parle pas. En médecine, on a plutôt tendance à numéroter qu'à donner des noms. Ça évite toute confusion et tout geste malheureux. Donc, on parle de premier rayon, deuxième rayon, troisième rayon. Donc pour les métacarpiens, on les numérote. Et ensuite, vous avez les phalanges. Et c'est pareil. Alors, avant, on les appelait phalanges, phalangines, phalangettes. Maintenant, on parle de première, deuxième et troisième phalange, qui est la toute dernière, sachant que le pouce n'en a que deux. Alors, par-dessus ce squelette, on rajoute ensuite les tendons. Alors, à la paume de la main, les tendons fléchisseurs, qui ont une fonction... alors les tendons, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne le sauraient plus, c'est en fait l'expansion des muscles. Les muscles se terminent par un tendon qui lui-même va s'accrocher sur l'os et qui transmet la force du muscle. En fait, ça permet de bouger les os, de mettre en mouvement les articulations. Alors, les tendons fléchisseurs sur la paume de la main, qui sont des tendons extrêmement élastiques. C'est-à-dire que quand on coupe un tendon fléchisseur, il s'en va loin, parfois jusque dans l'avant-bras. Le tendon extenseur sur la paume de la main, c'est tout le contraire. Ne se rétracte pas du tout. Donc, d'un point de vue du pronostic dans les blessures, c'est extrêmement important pour nous. À côté de ces tendons, les nerfs, qui sont accompagnés des artères. Alors là, ils ne sont pas représentés, mais en fait, c'est exactement le même trajet, et qui sont sur sur la face palmaire de la main. Chaque doigt long a deux nerfs, un de chaque côté. C'est ce qui. Et chaque nerf, en fait, assure l'innervation sensitive de la moitié du doigt. Donc chaque nerf se partage les deux nerfs se partagent la moitié du doigt, sauf sur le pouce où la nature, dans un souci de prévoyance, a tout doublé. Donc au lieu d'avoir deux artères, on a deux nerfs, on en a quatre, et au lieu d'avoir deux nerfs, on a quatre nerfs. Ce qui fait qu'à la moindre blessure, les conséquences sont moindres. Et juste pour montrer qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a d'autres choses, mais on ne va pas tout détailler. Alors maintenant, on va passer à la traumatologie vraiment bien spécifique. Alors, on va commencer par les plaies. Donc, en fait, quand un patient arrive avec une plaie, on ne recherche pas du tout les mêmes choses suivant qu'elle arrive la plaie soit en face dorsale ou en face palmaire. En face dorsale, en gros, il y a des tendons. Si on veut simplifier, puis en dessous, il y a l'os. C'est en général des plaies assez larges. Alors, ça va être la scie circulaire chez le bricoleur du dimanche ou des choses comme ça. Donc, les tendons extenseurs que l'on va suturer, alors bien sûr, ça se fait au bloc opératoire, suivant le degré d'atteinte, on immobilise avec une attelle telle qu'elle est représentée en dessous de 3 à 6 semaines. Donc là, par exemple, c'est une attelle qu'on a mise pour un patient qui s'était abîmé un tendon extenseur au pouce. Alors en face palmaire, les plaies, ça peut être beaucoup plus embêtant. C'est parfois très vicieux, c'est-à-dire que la moindre petite plaie, même millimétrique, peut nous donner d'énormes surprises. Et on a des gens qui y arrivent. Alors, souvent, c'est des plaies par couteau, par exemple chez le cuisinier, c'est-à-dire en décortiquant un avocat ou classiquement en ouvrant les huîtres, qui vont avoir une plaie vraiment toute petite et qu'on va explorer. On va retrouver des tendons abîmés, des nerfs abîmés. Donc il y a un dogme en chirurgie de la main qui veut que toute plaie profonde de la paume de la main, même minime, doit être explorée au bloc opératoire. Alors après, il y a une immobilisation pour protéger les sutures le temps que le tout cicatrise. Pour un nerf simple, c'est 3 semaines d'immobilisation. Et les tendons fléchisseurs, c'est toujours 6 semaines, parce que c'est des tendons très élastiques et qui mettent vraiment en souffrance les sutures réalisées. Donc là, je vous ai représenté le microscope qu'on utilise. À cet endroit-là pour suturer les nerfs, parce qu'en fait un nerf dans le doigt c'est tout petit et on utilise des fils qui sont plus fins qu'un cheveu, donc forcément on a besoin d'un fort grossissement. Alors les infections de la main, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Ça part le plus souvent d'une plaie, parfois minime, c'est-à-dire que ça va être en nettoyant l'aquarium ou des choses comme ça, ou en cuisinant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Et les morsures. Alors, sachant que la morsure la plus dangereuse, c'est celle de l'homme. Bon, fort heureusement, il n'y en a pas souvent. En général, il y a un contexte d'alcoolisation qui va avec. Et ensuite, les morsures de chat, qui sont plus dangereuses que les morsures de chien. Alors, ça peut aller très, très vite, surtout suite à une morsure. Les vétérinaires connaissent ça très bien. On a souvent des vétérinaires qui arrivent à nos consultations parce qu'ils se sont fait mordre par un petit animal et ça a évolué très rapidement. Et c'est pas rare que des gens viennent, ils se sont fait mordre le matin et le soir ils ont une main en forme de patate. Donc il ne faut pas hésiter à consulter votre médecin à la moindre morsure, parce que ça peut être vraiment très délétère. Alors à la main, le premier stade de l'infection, c'est ce qu'on appelle la cellulite, c'est-à-dire qu'il y a la peau qui est infectée, en dessous ça ne va pas plus profond. Donc le plus souvent on le rencontre en face dorsale. Dans un premier temps, on donne des antibiotiques et on revoit les gens très régulièrement, parfois tous les jours, en consultation pour être sûr que ça va bien. Et puis parfois, ça ne marche pas, ça a tendance à s'étendre vers la profondeur et dans ces cas-là, ça s'abcède. Donc là, ce que vous voyez, c'est une abcédation. Alors, c'est pas très joli. Et surtout, ça s'opère. Alors, il y a une forme d'infection qui est propre à la main qu'on appelle le flegmon de la gaine des fléchisseurs. Les tendons fléchisseurs, pour assurer leur fonction, sont entourés d'une gaine qui les isole du reste des structures, qui leur permet de bien coulisser. Et cette gaine, en fait, est particulièrement étanche aux cellules immunitaires. Ce qui fait que quand on fait une plaie, une petite plaie qui va traverser la gaine des tendons fléchisseurs, on va inoculer un germe qui va avoir une température à 37 degrés, de l'humidité et pas de cellules immunitaires. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour proliférer. Et c'est ce qui se passe. Et donc, très rapidement, le germe se développe tout le long du trajet du tendon. Et parfois, c'est pareil. En quelques heures, les gens arrivent, ils se sont blessés le matin et l'après-midi, ils ont les doigts tout recroquevillés comme ça. Et là, on opère assez rapidement. Et dans la plupart des cas, on trouve un volumineux flot de pus qui entoure le tendon et qui s'est formé vraiment en quelques heures. Alors, il y a la forme du panari. Bon, ça, c'est beaucoup moins grave. C'est au bout du doigt. Alors, ça peut être grave si on laisse vraiment évoluer, mais ça, bon, c'est quand même pas fréquent. Et c'est principalement les gens qui se rongent les ongles. Donc, il ne faut pas se ronger les ongles. Voilà. Alors, les fractures. Les fractures, c'est comme dans l'orthopédie générale. Alors, je n'ai pas plus étendu que ça, parce que bon, c'est quelque chose qui est d'un traitement assez classique, en fait, hein, tel que qu'on connaît déjà. J'ai juste traité une fracture bien particulière à la main, qui est le coup de poing dans le mur. Alors, en général, le contexte, c'est un homme jeune et un peu alcoolisé qui s'énerve et qui tape dans un mur ou dans quelqu'un. Mais bon, fort heureusement, c'est le plus souvent, c'est dans un mur. Et voilà, comme je vous l'ai mis sur la diapositive, le mur gagne toujours. Et ça donne toujours la même fracture, qui est la fracture du col du cinquième métacarpien. Donc, c'est ici. Donc, vous voyez là sur la radiographie. En fait, à cet endroit-là, c'est cassé et ça a basculé. Donc, la plupart du temps, on doit l'opérer parce que le doigt a tendance à tourner sur lui-même. Alors, dans le jargon, on appelle ça officiellement la fracture du boxeur et souvent, on appelle ça la fracture du con, en fait. Et pour terminer, alors, les amputations. Alors, j'ai pas mis d'iconographie parce que, bon, il y en a que dans l'assistance que ça pourrait choquer. Le but, c'est quand même pas de faire dans le gore. Le message qu'on voudrait faire passer, ce qui est vraiment important, c'est que si vous assistez malheureusement à ça un jour, à quelqu'un qui s'ampute un doigt ou une main, ou même plus grand, le segment qui est amputé, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans un récipient ou dans un contenant sec. Donc ça peut être un sac de congélation, ça peut être un pot, il faut qu'il soit propre et sec. Et ce contenant-là, il faut le mettre dans la glace. Donc, il ne faut pas que le membre amputé soit directement au contact de la glace, sinon ça le brûle. Et bien sûr, il faut tout de suite venir aux urgences. Sans ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à réimplanter, sachant qu'après, une fois qu'on reçoit le patient, et bien on voit en fonction du membre amputé ce qui est faisable. La plupart du temps, on tente, sachant que malheureusement, c'est quand même une chirurgie qui est très aléatoire. Hein, c'est loin de marcher à tous les coups. Et c'est des suites opératoires qui sont longues, avec dans un premier temps un patient qui va rester 5 jours dans une chambre chauffée à 28 degrés, c'est vraiment une ambiance tropicale, des anticoagulants dans le but en fait de dilater les vaisseaux, la chaleur ça dilate les vaisseaux, donc il y a un gros afflux sanguin vers le lieu de réimplantation, et une surveillance toute la journée, toute la nuit en permanence, pour être sûr que ça passe, et voilà. Donc c'est la fin, je vous remercie.
Donc, bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de deux pathologies très fréquentes à la main qui ne concernent pas les urgences, mais plutôt de la pathologie programmée, c'est-à-dire des symptômes qui évoluent depuis plusieurs mois et qui conduisent à une consultation spécialisée. Donc, tout d'abord, nous parlerons du syndrome du canal carpien et ensuite du doigt à ressaut. Donc, le syndrome du canal carpien est en fait une compression nerveuse. C'est la compression nerveuse la plus fréquente sur la main. Je vous gêne ? Non. Donc, elle va concerner la compression d'un nerf qui s'appelle le nerf médian et qui va être comprimé lors de son passage dans la paume de la main. Donc là, vous voyez le nerf médian qui se trouve sur la paume de la main, donc de ce côté, et qui va être comprimé dans ce qu'on appelle le canal carpien, qui est cette zone. Et donc c'est une espèce de tunnel, si vous voulez, inextensible. Et lorsque le nerf passe dans ce tunnel, le tunnel va être trop petit par rapport au volume du nerf et il va être comprimé. Donc, en fait, pour vous expliquer un petit peu ce que sont les syndromes de compression nerveuse, vous imaginez dans votre jardin un tuyau d'arrosage et vous imaginez une grosse pierre posée sur le tuyau d'arrosage. Vous voyez bien que quand il y a cette pierre, l'eau ne va plus passer dans le tuyau. Et ben, c'est un peu la même chose avec notre nerf qui est comprimé par cette membrane, si vous voulez. Donc, imaginez le tuyau et la grosse pierre. Et le rôle du chirurgien, en fait, va être simplement d'enlever la pierre. Donc, il va enlever la pierre et il va laisser le tuyau tranquille qui va se redéployer pour que l'eau passe à nouveau. Donc, vous imaginez bien que si la pierre est posée depuis seulement quelques jours, quelques semaines, quand on enlève la pierre, le tuyau va reprendre son volume et tout va rentrer dans l'ordre. Si par contre votre tuyau il est coincé par cette pierre depuis plusieurs années, le tuyau va être écrasé, on aura beau l'enlever, il marchera plus. Donc c'est un petit peu la même chose avec le canal carpien. Donc comment vont se manifester les symptômes en fait ? Eh bien, vous avez certainement vu autour de vous, vous souffrez peut-être vous-même de cette pathologie. En fait, ça va être des manifestations donc dans la paume de la main avec des fourmillements dans les trois premiers doigts, c'est-à-dire dans le pouce, l'index, le majeur et la moitié du quatrième doigt, qui vont se manifester essentiellement la nuit. Alors pourquoi vont-ils se manifester la nuit ? Parce qu'en fait, la nuit, on ne bouge pas sa main. Et du coup, le sang stagne, il y a un mauvais retour veineux, un mauvais retour lymphatique. Et du coup, il y a d'autres choses qui passent, des tendons qui passent dans le canal carpien. Tout va s'épaissir un petit peu et va comprimer le nerf. Vous voyez que le matin, quand vous vous levez, il est plus difficile de mettre une bague que le soir, parce que les doigts sont plus gonflés. Donc si ça gonfle à l'extérieur, ça gonfle aussi à l'intérieur. Et donc ça explique les symptômes. Donc la nuit, les personnes qui souffrent du canal carpien ont souvent ces fourmillements dans les trois premiers doigts et sont obligées de secouer les mains pour faire circuler le sang et pour permettre que les fourmis s'en aillent et que le nerf soit décoincé. Donc ça, c'est les symptômes qui apparaissent au début et qui persistent. Quand la compression reste plus longtemps, en fait, il va y avoir d'autres symptômes et il va y avoir notamment une perte de force. Une gêne dans les gestes de la vie quotidienne, dans l'utilisation de la main. Et les patients vont décrire le fait qu'ils lâchent des objets. En fait, ils vont lâcher les tasses, des choses comme ça. Et ça, c'est les symptômes qui prouvent qu'il y a une atteinte avancée, que la compression est là depuis longtemps. Parfois aussi, on peut retrouver des douleurs sur l'avant-bras, plutôt sur la face dorsale, et, en plus de tous les autres symptômes. Alors, qui est touché par ce syndrome du canal carpien ? Alors, ce sont surtout les femmes. Les femmes autour de la ménopause, souvent les deux mains, avec une prédominance pour la main dominante. Il n'y a pas vraiment de cause, donc on appelle ça idiopathique, ça veut dire quand il n'y a pas de cause. C'est plutôt une cause, on va dire, cause hormonale, puisque ça apparaît autour de la ménopause. Ça apparaît aussi... femmes pendant la grossesse peuvent déclencher un syndrome du canal carpien, donc encore une cause hormonale. D'autres causes peuvent exister, comme le diabète, l'hypothyroïdie, et il peut y avoir des raisons positionnelles. Quand on positionne mal sa main pendant longtemps, ça peut accentuer cette compression. Par exemple, les secrétaires qui travaille toute la journée avec le poignet cassé sur l'écran, sur le clavier. Et donc vous imaginez que quand le poignet est cassé comme ça, le nerf qui passe ici va être plus comprimé. Donc vous avez certainement vu des claviers avec une avancée qui permet de positionner le poignet bien à plat pour éviter ces désagréments. Alors, une fois que votre médecin traitant ou le chirurgien, ça dépend qui vous allez voir, diagnostique, suspecte en fait le syndrome du canal carpien avec les fourmis qui réveillent la nuit, on est obligé de secouer la main, on lâche les objets, il va devoir vous prescrire un examen qui va confirmer en fait le diagnostic. Il va permettre deux choses, cet examen, c'est l'électromyogramme. C'est un examen neurologique, donc il va examiner les nerfs, qui se fait chez un neurologue, et il va nous permettre, un, de confirmer que c'est bien un syndrome du canal carpien, et deuxièmement, il va permettre de déterminer la sévérité de la compression. Est-ce que la compression elle est débutante, modérée, ou si le nerf est vraiment très comprimé depuis longtemps et qu'il est en très très mauvais état. Parce que, en fait, la sévérité de la compression va nous orienter vers différents traitements possibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, on a diagnostiqué et il va falloir qu'on trouve une solution. Donc, au début, en fait, quand la compression est minime, ça fait pas très longtemps que les symptômes sont présents, on lâche pas encore les objets, on a juste quelques petits de fourmis la nuit. On va tout faire dans ce cas-là pour éviter l'opération. Donc, on va, dans un premier temps, prescrire une attelle, comme vous voyez ici, qui va en fait devoir être mise la nuit. La nuit, parce qu'on a vu que c'était là où les symptômes étaient les plus importants, et elle va permettre de garder le poignet en bonne position, c'est-à-dire en position neutre, comme ça. Parce qu'en fait, souvent, la nuit, quand on dort, on ne s'en rend pas compte, mais on se met comme ça, avec le poignet plié. Et donc, eh ben, ça comprime à nouveau le nerf qui est ici. Donc, en gardant le poignet étendu la nuit, ça va permettre d'éviter une compression au tout début des symptômes. Ensuite, on va prescrire un traitement anti-inflammatoire, encore pour diminuer l'inflammation, puisque c'est l'inflammation qui est responsable en fait, de cette compression dans le canal carpien. Et enfin, on peut envisager des infiltrations. Alors, une infiltration, ça veut juste dire une piqûre d'un produit anti-inflammatoire que l'on met directement sous échographie la plupart du temps dans le canal carpien. Donc, c'est une piqûre qui se fait sur la paume de la main sous échographie et qui va donc permettre de diminuer l'inflammation dans le canal carpien et donc de soulager les symptômes. Alors, on va dire que c'est temporaire, ça peut durer quelques mois, même quelques années de temps en temps. Souvent, après, ça revient. Donc, lorsque le traitement médical n'est plus efficace, ou alors si le diagnostic a été fait trop tard, c'est-à-dire que les symptômes évoluent depuis plusieurs années et qu'à l'électromyogramme, on a vu que c'était vraiment comprimé de façon sévère, il va falloir envisager la chirurgie. Alors, le but de la chirurgie, en fait, c'est comme l'histoire du tuyau d'arrosage, c'est d'enlever la pierre. Donc, vous voyez, vous avez le nerf qui passe ici, qui est comprimé par ce qu'on appelle, c'est comme un ligament, si vous voulez, pour faire simple. Il est comprimé et le but, en fait, ça va être d'ouvrir ce ligament, comme ici. Et vous voyez que du coup, le nerf peut respirer et il va, du coup, il ne souffrira plus. Alors, comment fait-on cette opération ? Ça se fait en chirurgie ambulatoire la plupart du temps, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuit à l'hôpital, le patient rentre le matin et sort une à deux heures après l'opération. C'est une opération qui se fait sous anesthésie qu'on appelle loco-régionale, donc c'est une sorte d'anesthésie locale où il y a juste le bras qui est endormi, mais ne vous inquiétez pas, vous ne voyez rien du tout dans l'opération, il y a des grands tissus qui cachent tout. Et souvent, on met de la musique dans les oreilles du patient, comme ça, il ne voit rien, il n'entend rien, mais c'est quand même beaucoup plus léger qu'une anesthésie générale. Donc, après, la technique classique, c'est comme sur la photo de droite. Donc, on fait une petite incision dans la paume de la main, donc ici, hein, juste en regard du canal carpien, et on ouvre le ligament. Et là, vous voyez qu'il y a les deux berges du ligament qui sont ouvertes, et le nerf, on voit, il a de l'espace et il peut respirer. Donc, suite à l'opération, les fourmis disparaissent immédiatement. La première nuit, en général, les patients arrivent à dormir sans être réveillés. Donc ça, ils apprécient vraiment parce que c'est quelque chose qui est très gênant d'être réveillé chaque nuit à cause de ces fourmis. Et après, par contre, la force met plus de temps à récupérer. Il y a une autre technique qui consiste en fait encore à... de la même manière à couper ce ligament, mais au lieu d'ouvrir sur la paume de la main, on va faire une petite incision, vraiment de 1 cm, sur la face antérieure du poignet, et mettre une caméra à l'intérieur, et en fait, le ligament, au lieu d'être coupé par-dessus, si vous voulez, là, quand on ouvre, on va couper le ligament par-dessus, et bien là, on va mettre dedans et on va le couper par-dessous. Alors, tout le monde ne peut pas être opéré par cette technique. Il y a quand même des restrictions. Il ne faut pas avoir une main trop petite. Il ne faut pas que la compression soit trop évoluée parce que on ne peut pas vérifier, on ne peut pas bien regarder le nerf. On peut juste libérer. Il faut savoir que les suites après à long terme sont les mêmes. Il n'y a pas de véritable bénéfice. Seulement les suites immédiates sont un peu plus rapides avec la technique endoscopique. Mais si jamais vous avez un canal carpien et que votre main est trop petite pour pouvoir faire cette technique, il ne faut pas être inquiet, ça ira bien quand même. Alors les suites, en fait, les suites elles sont très simples. Une fois que vous êtes sorti de l'hôpital, du service de chirurgie ambulatoire, il faudra juste contacter une infirmière pour qu'elle vous fasse des pansements, une infirmière libérale, en fait, qui viendra chez vous faire les pansements tous les deux jours, et environ 15 jours de cicatrisation. On conseille de porter la petite attelle que vous avez vue tout à l'heure la nuit pour éviter que le nerf colle entre les deux pans du ligament qu'on a ouvert, parce que ça c'est une complication qui est un petit peu c'est une complication qu'il faut éviter, donc c'est pour ça qu'on prescrit l'attelle. Et il faut éviter les travaux de force, c'est-à-dire on déconseille le tout ménage, repassage, jardinage pendant le mois qui suit l'opération pour éviter les récidives. En fonction du travail, l'arrêt de travail à prévoir est d'environ un mois pour un travail de bureau à un mois et demi pour un travail plus physique. Et la conduite automobile est autorisée à partir du 15e jour, parce qu'il n'est pas autorisé de conduire avec une attelle. Votre assurance ne vous prend pas en charge s'il vous arrive quelque chose. Donc maintenant, on a fait un petit tour du canal carpien. On va voir la deuxième pathologie qui est très fréquente. En fait, c'est le doigt à ressaut. Le doigt à ressaut, c'est un peu le même principe que le canal carpien, c'est-à-dire un tunnel qui est trop petit par rapport à ce qui passe dedans. Mais au lieu, tout à l'heure, c'était un nerf qui était comprimé, et cette fois, c'est un tendon qui est comprimé. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, les tendons qui passent dans la paume de la main sont les tendons qui permettent de plier les doigts. Et en fait, ils sont souvent comprimés par un tunnel qui se trouve à la base du doigt. Chaque doigt peut être touché. Donc, on va prendre par exemple l'exemple du pouce. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous essayez de plier votre pouce et il plie un peu. À un moment, il bloque. Et vous n'arrivez plus. Et d'un coup, ça va faire cloc. C'est pour ça qu'on appelle un ressaut. Et il va être vraiment plié. Et après, vous n'arriverez plus à l'étendre. Et après, vous essayez encore d'étendre, vous n'arrivez pas, et cloc, ça, le doigt est tendu. Donc, il y a un film, je vais vous mettre un petit film pour que vous voyez. Et donc, là, vous voyez le pouce est comme ça. La patiente va essayer de relever, et vous allez voir que quand elle va essayer de relever, ça va faire cloc. Et ensuite, quand elle va essayer de baisser, ça va faire cloc aussi. Et c'est ça qu'on appelle le ressaut. C'est très court. Alors, regardez bien. Voilà. Et là, quand elle plie, hop. Je vais vous le remettre parce que c'est très rapide. Ah, bah, ça, c'était la fin. Voilà. Voilà. Là, on voit, ça fait... Bon. Je vous remets une dernière fois, comme ça, vous voyez bien. Mince. Bon, vous avez compris. Alors, ensuite... Si vous n'avez pas compris, je vous remontrerai après. Et donc, je vais vous expliquer un peu le mécanisme. Donc, vous voyez, c'est toujours une histoire de tunnel qui est trop petit. Et donc, les tendons, là, le tendon s'inflamme un petit peu et il fait un espèce de... comme un nodule, si vous voulez. Et donc, quand on plie le doigt, donc là, le doigt est plié, le tendon est passé là, comme on a vu qu'ils étaient très élastiques, et le tendon est de ce côté-là. Et quand... le patient va vouloir étendre son doigt, il ne va pas y arriver, et d'un coup, paf, il va passer de l'autre côté. Et c'est ça le mécanisme du doigt à ressaut. Donc, comme le canal carpien, c'est quelque chose qui, est, plus, qui va toucher la femme à peu près aux alentours de 40 ans, mais tout le monde peut être touché. Le diabète est un facteur prédisposant, surtout les... Et ça peut survenir. En fait, c'est les mêmes personnes qui vont être sujettes au canal carpien, elles vont être sujettes aux doigts à ressaut. Et enfin, ça peut toucher les très jeunes enfants. On le retrouve chez les tout jeunes enfants avant 3 ans. Donc, le traitement, comme tout à l'heure, donc il va y avoir d'abord un traitement médical qui va consister en du repos et des infiltrations. Et si donc le but de l'infiltration, ça va être de diminuer le volume du tendon pour qu'il puisse coulisser de façon satisfaisante dans la gaine. Et si le traitement médical n'est plus efficace, c'est-à-dire au-delà de 3 infiltrations, ou s'il a été diagnostiqué trop tard, il va falloir faire exactement comme pour le canal carpien, c'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir la zone de compression. Et donc, ça se fait par une petite ouverture sur la paume de la main. Et pareil, donc, en chirurgie ambulatoire, sous anesthésie locale. Les suites sont très simples, avec des pansements pareils, juste des pansements simples, pas d'immobilisation. On conseille aux patients de bouger immédiatement ses doigts pour récupérer le plus vite possible la mobilité. Et l'arrêt de travail est entre 15 jours et un mois en fonction de la profession. Je vous remercie. Si vous avez envie de visiter le CHU de Poitiers, vous êtes les bienvenus.
Moi, je vais vous présenter l'aspect rééducatif d'une prise en charge d'une main, ou plutôt des mains. Alors bon, je vais certaines fois répéter ce qu'on dit à la fois le médecin généraliste et puis les chirurgiens. Mais c'est vrai que la main pour tous les patients que l'on rééduque, c'est à la fois un outil de loisir et un outil de travail dont on se sert tout au long de notre vie, avec une représentation au niveau du cerveau qui est très importante, comme l'a dit Monsieur Roland, avec le pouce qui prend lui aussi une importance très 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 grande et qui nous montre bien qu'on va se servir de notre main dans toutes les activités de la vie quotidienne et les activités de loisirs, hein, telles que on peut le voir avec ce pianiste qui se sert lui des deux mains, ou tel qu'on peut le voir avec l'infirmière qui est en train de préparer une perfusion. Bien entendu, je n'ai pas mis de photos de sport, mais le rugby est un exemple particulier qui nous montre là encore l'utilisation que l'on peut avoir de la main. Alors nous, pour nous les kinés, si je devais être schématique, je dirais qu'il y a plusieurs mains. Il y a une main traumatologique, il y a une main rhumatologique et il y a une main neurologique avec des grandes pathologies qui peuvent, qu'on peut accoler à ce type de main. Hein. Alors bon, la main traumatologique, ça va être toutes les fractures que l'on va avoir au niveau des métacarpes, au niveau des phalanges, au niveau des os du poignet. Et puis ces fractures ou certaines fois des plaies peuvent entraîner des lésions musculo-tendineuses avec des troubles qu'on reverra un peu plus loin, mais que nous, en tant que rééducateurs, on devra prendre en compte. La main rhumatologique, c'est les mains qu'on peut avoir après ou pendant la rééducation de polyarthrite rhumatoïde, en tout cas avec des pathologies qui vont être chroniques, la maladie du Dupuytren aussi. Et puis la main neurologique, c'est pour nous, si je devais schématiser, c'est la main de l'hémiplégie avec une rétraction des fléchisseurs, avec un pouce qui se met à l'intérieur de la main, qui empêche pour nous, rééducateurs, tout travail au niveau du membre supérieur, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la main elle est au service du membre supérieur. Et donc, toute l'activité du membre supérieur est au service de la main. La mobilité de l'épaule est au service de la main. Et donc, si on perd la main, notre membre supérieur ne nous sert pas. Alors, c'est très schématique, mais malgré tout, ça a une importance qu'il faut prendre en compte. En tant que rééducateur, nous, bien entendu, on travaille sous prescription médicale. On doit prendre en compte la pathologie initiale, les antécédents, les protocoles qui sont mis en place par les chirurgiens ou par les médecins avec lesquels on travaille. Mais quand il s'agit de chirurgie, c'est avec les chirurgiens. Et puis, on commence toute rééducation par des bilans. Alors, les bilans pour la main, ça va être des bilans articulaires, des bilans musculaires, des bilans sensitifs et puis un bilan fonctionnel. Et puis, ces bilans, ils doivent être à la fois quantitatifs et à la fois qualitatifs. On reverra un petit peu plus loin, on les décrira un petit peu plus. Et puis, à l'issue de ces bilans, le rééducateur, il fait un diagnostic kinésithérapique parce qu'il a fait une analyse des résultats de ces bilans. Et puis, de par son diagnostic kinésithérapique, il va mettre en place des objectifs de prise en charge. Ces objectifs de prise en charge devront tenir compte des attentes du patient aussi. Alors, les bilans pour le masseur kinésithérapeute et pour les rééducateurs en règle générale, ça va être des bilans musculaires, des bilans de force. Ça va être des bilans donc de force pour une main traumatique, mais ça va être des bilans de la motricité de la main en règle générale pour une main neurologique. Il va falloir faire aussi des bilans de la sensibilité. Alors, on fait des bilans de la sensibilité, comme l'a dit Madame Lodzi ou comme l'a dit Monsieur Roland. La main, elle est divisée en plusieurs territoires. À chaque territoire correspond un nerf. Et en fonction de l'atteinte nerveuse, on va avoir des territoires sensitifs qui vont être plus ou moins lésés. Eh bien, ces territoires sensitifs, on les teste avec ce qu'on appelle des petits filaments. Et puis, en fonction de la résistance du filament et de la force que l'on met à impacter le territoire sensitif, on va pouvoir quantifier le degré d'atteinte de la sensibilité au niveau de cette main. On va pouvoir aussi quantifier la récupération articulaire. On a vu qu'il y avait des articulations dans la main. Donc, bien entendu, en fonction de la capacité des doigts à bouger et en fonction de l'amplitude de flexion de la main ou d'ouverture de la main, eh bien, on va pouvoir quantifier un déficit que l'on va pouvoir mesurer par l'intermédiaire d'un angle avec cet appareil que l'on appelle un goniomètre. Bien entendu, il faudra tenir compte au préalable, avant tout bilan et avant toute séance de rééducation, il faut faire un bilan de la douleur. Bien entendu, un patient qui a mal voit les capacités fonctionnelles de sa main fortement altérées. Donc, il faut prendre en compte sa douleur à la fois pendant la rééducation, avant la rééducation, après la rééducation, de manière à voir si on n'a pas été traumatique dans les techniques que l'on a pu appliquer au patient. Il faudra faire un bilan trophique. Là, on voit une main qui est très œdémaciée. Vous pouvez bien imaginer qu'une main qui est très gonflée comme ça va voir ses capacités de mobilité qui vont être très, très impactées, hein, avec des pertes de mobilité très importantes. Et puis, il y a un bilan fonctionnel. Alors, ça, il s'appelle le bilan fonctionnel de Kapanji, qui montre les capacités d'ouverture ou de fermeture de la main. Alors, de fermeture ici, pour la flexion. Et puis là, les capacités du pouce à pouvoir venir toucher chaque rayon. Et donc, en fonction de ce bilan et en fonction de la récupération, eh bien, on va pouvoir, là encore, quantifier l'importance des déficits fonctionnels dans la capacité du patient à pouvoir ouvrir ou fermer sa main. Alors, la rééducation qui va avec, en fonction, là encore, si je reviens à ma diapositive précédente, en fonction du diagnostic kinésithérapique, et des objectifs, on va pouvoir effectuer les manœuvres en fonction donc de celui-ci. Donc, on peut effectuer des massages qui vont être à but cutané trophique pour faire diminuer l'œdème tel qu'on avait pu le voir sur la diapositive précédente. Les massages de cicatrices en fonction de la chirurgie. Là encore, certaines fois, vous pouvez bien imaginer que quand une cicatrice est présente au niveau de la paume de la main, elle va altérer fortement l'ouverture de la main parce qu'il y a des brides qui se créent au niveau de la cicatrice. L'appareillage aussi est quelque chose d'important. Il y a des appareillages qui sont à la fois statiques et à la fois dynamiques. Alors là, on voit un appareillage dynamique. Là, on voit un appareillage statique. C'est de manière à préserver les sutures certaines fois. On voit aussi ici un appareillage de repos pour les patients qui sont touchés par la polyarthrite rhumatoïde. Alors cet appareillage de repos, il faut le mettre en certaines fois la nuit, certaines fois en période de repos pour les articulations, mais il n'empêche pas pour autant la rééducation du patient. C'est-à-dire que le rééducateur va enlever cet appareillage pendant les séances de rééducation de manière à effectuer des mobilisations qui sont infradouloureuses dans le type de la pour ce qui concerne la polyarthrite rhumatoïde, il faut que ces mobilisations soient infradouloureuses de manière à pas redéclencher une inflammation, puisque cette pathologie est créatrice d'inflammations qui sont très très invalidantes pour le patient. Donc là, le rééducateur s'inscrit dans une préservation de la fonction, une préservation des amplitudes sans chercher un gain. Il peut aussi y avoir un travail musculaire. Donc le travail musculaire, c'est lorsqu'il y a un déficit musculaire, c'est lorsque les capacités de mobilité du patient sont fortement diminuées, c'est lorsqu'il faut renforcer certains muscles en lien avec la pathologie initiale. On peut imaginer que, par exemple, une pathologie du nerf médian, du nerf radial, va entraîner des hypotonies musculaires ou des amyotrophies qu'il va falloir rééduquer et dont il va falloir prendre en compte, donc il va falloir restaurer, là encore, une force musculaire. Et puis, il peut y avoir aussi une kinésithérapie qui est beaucoup plus passive lorsqu'on s'adresse, par exemple, à des fractures où là, puisqu'il y a un déficit articulaire, il faut rééduquer de manière beaucoup plus importante le gain de mobilité. Donc voilà pour ce qui était les techniques au niveau de la main traumatologique et rhumatologique. Pour ce qui concerne la main neurologique, on a vu tout à l'heure que c'était une main qui était fortement rétractée de ce type-là. Donc l'objectif du kinésithérapeute est d'aller vers une ouverture de la main. Donc lorsque la spasticité, qui est un trouble qui apparaît dans une hémiplégie, mais plutôt une hémiplégie à long terme, eh bien, il faut faire des inhibitions de la spasticité avec des techniques qui vont ouvrir la main, avec des techniques qui vont écarter le pouce de la paume de la main. Mais il faut aussi, lorsque l'hémiplégie est naissante, ou lorsqu'on la prend en charge dans les quelques jours qui suivent son apparition, eh bien il faut restaurer la motricité et il faut avoir des techniques qui vont favoriser la motricité du patient, qui vont favoriser son travail cérébral pour essayer de lui faire ouvrir la main. Parce que, à long terme, comme on a pu le voir sur les photographie précédente, l'impact de l'hémiplégie sur la main, c'est la fermeture, et donc c'est ne plus pouvoir s'en servir au niveau quotidien. Il faut aussi rééduquer la dextérité, il faut aussi rééduquer la sensibilité du patient. Lorsqu'on a affaire à des lésions nerveuses, telles nerfs médians, telles nerfs radiales, on a vu qu'il y avait des troubles de la sensibilité. Le patient ne sait plus quel matériau il touche. Si vous lui faites toucher du coton ou du papier de verre sur le territoire sensitif atteint, le patient n'est pas capable de vous dire quelle texture il touche. Donc l'objectif du kinésithérapeute et de l'ergothérapeute est de favoriser la récupération de la sensibilité en le stimulant par l'intermédiaire du toucher de différentes textures. Et ça, c'est très important parce que je vais y revenir aussi un peu plus loin. Dans la prévention et dans l'éducation qu'on peut mettre en place pour nos patients, que les rééducateurs peuvent mettre en place, eh bien, il y a à réaliser des automobilisations en dehors des séances, de manière à ce que le patient ne perde pas les capacités fonctionnelles que les rééducateurs ont pu lui faire acquérir pendant la séance. Il y a, lorsque les troubles s'installent sur un long terme, il faut que le patient puisse faire de la prévention de sa peau. Donc il faut qu'il s'automasse, il faut qu'il s'automobilise. Il faut que les rééducateurs lui fassent bien comprendre les dangers qu'il fait courir à sa main. Et je reviens au trouble de la sensibilité. Lorsqu'un patient n'a plus de sensibilité, c'est un patient qui, par exemple, est capable de mettre sa main sur une plaque de cuisson et ce patient n'est pas capable de sentir la chaleur. Donc là encore, on doit l'éduquer à tous les dangers qu'il fait prendre à sa main. Donc ça, c'est... donc. Tout ce qui concerne les exercices que j'ai pu décrire de ce type-là, ce sont vraiment des exercices qu'il faut qu'il fasse, parce que si on le revoit deux ou trois fois dans la semaine, eh bien, il faut que les jours dans lesquels il n'est pas en rééducation, il faut qu'il continue à faire ce qu'on lui a dit de faire. Et puis, sur du long terme, on a vu que la main était vraiment un organe très très fonctionnel. Il y a un bilan qui s'appelle le bilan fonctionnel de Cochin, où on voit qu'en fonction des activités de la vie quotidienne et en fonction de la quantification que l'on peut donner à la faculté à effectuer tel acte de la vie quotidienne, on va pouvoir quantifier un déficit, hein, tenir un bol, saisir une bouteille, tenir un plat, verser le liquide dans la bouteille. Enfin voilà, il y a tout un tas de rubriques qui sont quantifiées et qui nous donnent un score total d'invalidité de la main. Ce score total, il nous donne une photo de ce qu'est capable de faire la main au quotidien. Donc il faut vraiment, à la suite d'une rééducation analytique, il faut effectuer une rééducation fonctionnelle, de remise de la main dans des activités fonctionnelles de la vie quotidienne, l'écriture, le bricolage, enfin des choses comme ça. Et il faut à terme, avec l'équipe de rééducation, se poser la question de la mise en place d'aide dans la vie quotidienne du patient, hein, telle que j'ai pu le montrer sur ces différentes photos, puisqu'on voit bien que quand une main n'est plus fonctionnelle, il faut redonner quelque part une fonction à la main qui reste. Donc soit par quelquefois un changement de latéralité, parce que quelquefois les patients ont une main qui n'est plus fonctionnelle par rapport à certains actes de la vie quotidienne, donc il faut les rééduquer. Et là, c'est souvent fait par les ergothérapeutes. Donc il faut rééduquer ce changement de latéralité. Mais il faut aussi mettre en place des aides à la vie quotidienne du patient, de manière à ce que nos patients puissent avoir une vie la plus performante possible et puissent avoir une activité de leurs mains la plus optimale possible. Donc, dans les différentes diapos que j'ai pu vous présenter, on ne peut pas imaginer la rééducation de la main sans qu'elle soit interdisciplinaire, hein, sans qu'elle soit... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je la conçois dans le service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Poitiers. Ça concerne les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, le service d'appareillage. Bien entendu, le patient, il est au milieu et on tient compte de son avis et on tient compte de ses résultats. Et on ne peut pas imaginer, en tout cas, que cette rééducation ne puisse pas se faire sans que l'ensemble de ces intervenants ne puissent avoir à donner leur avis à un moment ou à un autre de la rééducation. Je vous remercie de votre écoute.
Merci beaucoup à vous quatre pour toutes ces précisions. C'est à vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous levez la main, comme à l'école. Je viens vers vous, je vous rappelle, avec le micro. Parlez bien dans le micro que je vais vous tenir. Si vous ne voulez pas poser la question, vous pouvez me l'écrire sur un papier. Et je viendrai. On va commencer avec vous. Je vais vous tenir le micro. Alors, évidemment, une chose que je n'ai pas précisée, évitez les consultations, évidemment, puisque les intervenants n'ont pas vos dossiers médicaux et ne pourront pas vraiment vous aider. Merci.
Donc, vous le tenez. Bon, je me présente, je suis le professeur Gaillet, donc le chef de service d'orthopédie. Donc, je remercie, je vais vous poser de questions, je vais remercier les quatre orateurs. Tout d'abord, le docteur Fontaine, je connais sa rigueur, on fait des expertises ensemble et il ne laisse rien passer. Je remercie bien sûr Caroline et Raphaël. Hein. Je suis très content qu'ils soient venus, qu'ils aient accepté de venir travailler dans le service. J'ai pu juger de leur professionnalisme. Là, depuis le mois d'octobre, ils sont là. Donc, leur activité augmente régulièrement. Ils assurent le service donc SOS main. Donc, 24 heures sur 24, ils sont à même de prendre en charge toutes les plaies de la main. Donc, l'exemple de montrer Raphaël. Et ils font également la chirurgie programmée. Donc, maintenant... Il faut savoir qu'au CHU, il y a tout ce qu'il faut pour assurer soit la main traumatique, soit la main en chirurgie réglée. Nul besoin maintenant de partir, je ne sais pas, Angers, Angoulême, que sais-je encore. Voilà. Et je remercie aussi M. Texereau. On sait bien que non seulement il faut qu'une main soit bien opérée en urgence, hein, on sait que la chirurgie de la main en urgence, si elle est bien faite, les suites seront beaucoup plus simples que si elle est mal faite en urgence et les reprises chirurgicales ont des résultats beaucoup moins bons. Et bien sûr, la rééducation après la chirurgie de la main est indispensable. Et on sait qu'il y a des équipes qui travaillent de kiné que sur la main. Il faut qu'il y ait une parfaite harmonie entre les deux. Voilà.
Merci. Vos questions. Monsieur, je vais vous tenir le micro.
Oui, moi je voudrais simplement une précision concernant le traitement du ressaut. Il semblerait que l'infiltration... serait préconisé pour, dans un premier temps, éviter l'opération. Ou est-ce que c'est les infiltrations tout à fait au début des premiers symptômes du ressaut?
Alors, ça marche? Oui. En fait, l'infiltration, c'est la première étape. C'est soit si vous avez un doigt à ressaut qui évolue depuis peu de temps, et qui ne reste pas bloqué en permanence en flexion. Dans ce cas-là, on peut essayer l'infiltration, et des fois, ça peut suffire, et ça peut, l'opération peut ne pas être nécessaire. Parfois, ça revient, et on peut refaire des infiltrations. Au-delà de 3 infiltrations, il faut envisager la chirurgie.
Attendez, j'arrive, je suis là.
Vous confirmez ce que j'ai subi. C'est la raison pour laquelle je posais cette question, bon, un peu personnelle, c'est vrai. Enfin, je suis heureux que les diagnostics sont quand même conformes pour vos prédécesseurs.
Bon, ça va. Ouf. Merci. Vous voulez bien poser une question, madame, allez-y.
Oui, bonjour. En ce qui concerne la rhizarthrose, j'aimerais savoir quel est le traitement et le temps d'immobilisation éventuellement.
Alors, concernant la rhizarthrose, c'est très difficile de vous répondre comme ça parce qu'il y a plusieurs stades, en fait. Donc, au début, on peut commencer exactement pareil par un traitement médical avec une attelle et le repos. Après, on peut essayer les infiltrations. Et en dernier recours, la chirurgie. Il y a plusieurs techniques chirurgicales. Mais là, pareil, c'est difficile de vous dire. On peut, dans les rhizarthroses avancées, en fonction de l'âge, chez les personnes qui n'ont pas une demande fonctionnelle trop importante, c'est-à-dire pas les travailleurs de force, envisager la mise en place d'une mini prothèse de hanche, ouais, mais sur le pouce, qui fonctionne très bien. Mais voilà, c'est les grandes lignes et je ne peux pas répondre dans le cas personnel. Mais voilà, ça, en tout cas, il y a des solutions qui existent pour ne plus souffrir du pouce.
Merci. Alors, je vais aller ici et j'arrive vers vous, monsieur, après.
Bonjour, j'ai une petite question avec une petite critique en même temps. Je suis étudiante en psychologie et je suis illustratrice en freelance. Et je me rends compte qu'il n'y a pas, dans mon parcours de soins et même à la fac, quand on étudie ce genre de cas, on n'a pas forcément de liens médicaux qui se font systématiquement ou qui devraient l'être en tout cas, en dehors de l'ergothérapie vis-à-vis des gens qui sont dyspraxiques, qui sont dépistés assez tard et qui contractent après, vers l'âge adulte, justement, des problèmes justement au niveau du canal carpien, avec des contractures, des doigts qui ne sont pas complètement à ressaut et même des malformations. Et donc, du coup, je me demande qu'en est-il au niveau du parcours médical pour ces types de personnes-là et qu'en est-il au niveau de la reconnaissance, parce que techniquement, ce sont des maladies qui arrivent tardivement et en fait, on les retrouve précocement chez ces jeunes-là. Voilà.
Ne vous battez pas.
En fait, ça, c'est des maladies dont la prise en charge n'est pas chirurgicale au départ. C'est-à-dire que nous, ce seront des médecins qui nous adresseront le patient nous demandant de réaliser tel ou tel geste pour corriger tel ou tel déficit, mais la dyspraxie, ce sera plus une prise en charge médicale et non chirurgicale. Donc nous, on n'intervient pas directement là-dessus, en fait.
Ma question était d'où, justement. C'était que, justement, ces personnes ont une dyspraxie qui est reconnue tardivement, parce que la plupart le sont tardivement, et on se rend compte qu'il y a, justement, des écrasements, des malformations au niveau des doigts, parce qu'il y a un mauvais positionnement dans les outils, dans la manipulation d'outils, et du coup, ça provoque précocement des canals carpiens, des canals cubitaux qui sont obstrués aussi, et du coup, pourquoi est-ce qu'au niveau du corps médical, même s'il y a une validation par un neuropsy ou un ergothérapeute, pourquoi est-ce que derrière, il n'y a pas un renvoi de balle sur quoi que ce soit, en fait ? Il n'y a pas de prise en charge de ces personnes-là ?
Si, nous, en fait, on n'a pas détaillé outre mesure, hein, mais il y a plein de causes neurologiques ou même parfois psychiatriques qui peuvent entraîner des déficits. On les opère si ça vaut le coup. Donc après ça, c'est compliqué, hein. C'est l'évaluation de la pathologie du patient. Mais après, nous, on traite tout le monde, hein, dyspraxique ou pas. Il n'y a pas de ségrégation, rassurez-vous. Donc, si aucun problème. Si on nous adresse les patients, on les prend en charge. Et les patients sont libres de venir nous voir, d'ailleurs, sans être adressés. Hein.
Alors, il y avait monsieur, d'abord. Je vais le tenir.
Oui, je les vois pas.
Je vais essayer d'être transparent.
Il se trouve que c'est pas une consultation que j'ai depuis quelque temps. Est-ce que c'est un rapport avec ce que vous avez dit ? Enfin, ça n'a pas été évoqué. Un tremblement de la main droite uniquement. Et il s'agit pas du syndrome pyramidal, parce que j'ai consulté un neurologue. Donc, on m'a parlé de tremblement essentiel. Est-ce que c'est un rapport avec certaines maladie, canal carpien ou des choses comme ça?
Alors non, en fait c'est d'origine neurologique, hein, le tremblement essentiel. Donc ça fait pas, malheureusement, ça fait pas partie de notre domaine d'action. Là-dessus, on peut pas faire grand chose chirurgicalement.
Faut consulter.
Oui. Mais plus, vous avez consulté un neurologue. Oui, ou un ORL. Oui, un neurologue. Ouais. Non, un neurologue.
Neurologue.
Ah, les oreilles, ça...
Oui, bonsoir. J'ai eu droit au canal carpien puis au doigt à ressaut. Sur l'autre main, j'ai quelque chose qui ressemblerait plutôt à du Dupuytren's. Quelle est la différence entre le doigt à ressaut et le Dupuytren's ? Et qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Alors, ça n'a rien à voir, en fait. Le doigt à ressaut, c'est le tendon qui accroche, en fait, hein, pendant qu'il coulisse. Le Dupuytren's, c'est une membrane qui est en fait juste sous la peau, on appelle ça une aponévrose, bon, ça c'est le terme scientifique, qui est juste sous la peau et qui a tendance en fait, qui s'épaissit, et en s'épaississant, elle attrape le tendon au passage. En fait. Et donc c'est pour ça que les mains se recroquevillent petit à petit. Alors en fait, là-dessus, on ne fait pas grand-chose tant que la main ne peut pas se mettre à plat sur la table. C'est-à-dire que vous prenez la main, tant que vous pouvez la mettre à plat sur la table, il n'y a pas de chirurgie nécessaire. Dès qu'on ne peut plus la mettre la main plat sur la table, là, en revanche, ça devient chirurgical. Sachant que... il n'y a pas d'urgence. Hein. C'est-à-dire que si un matin, vous vous réveillez, que vous ne pouvez plus mettre la main à plat, faut pas vous inquiéter, on a le temps. Mais après, tout est une question de mesure et il ne faut pas non plus attendre trop longtemps parce que plus, ça se recroque, plus les doigts se recroquevillent, plus pour nous, c'est difficile de rattraper. Et surtout pour les kinés après, plus c'est difficile de récupérer l'extension du doigt. La rééducation est beaucoup plus compliquée. Donc il n'y a pas d'urgence, mais il ne faut pas trop attendre non plus. Voilà.
Ok. D'autres questions ?
Quand la personne attend vraiment très longtemps et du fait trop longtemps, est-ce que néanmoins l'opération du canal carpien se solde par une réussite ou est-ce qu'il y a des échecs, c'est-à-dire l'opération a été inutile ou a empiré voilà.
Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, ça dépend. En fait. C'est-à-dire que ça peut toujours. Il y a toujours une amélioration qui. Il y a vraiment des stades neurologiques très très avancés où il n'y a plus rien qui répond. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune sensibilité, plus aucune motricité. C'est rare. Hein. C'est rare, c'est vraiment chez des profils assez particuliers. Mais sinon, même dans les cas très avancés, ça peut avoir un bénéfice qui ne sera pas total. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que. Quelqu'un qui attend depuis plusieurs années, qui a les muscles qui ont complètement fondu, on ne peut pas lui assurer qu'il récupérera une main tout à fait normale. Ce serait bien présomptueux et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Mais la plupart du temps, il y a quand même une amélioration. Donc il y a une amélioration sans atteindre la main parfaitement normale. Voilà. Alors après, la question c'est dans quelle mesure on va récupérer. C'est extrêmement aléatoire. Tout ce qui est nerveux, en fait... C'est assez difficile à expliquer aux gens parce qu'on vit dans un monde où tout est quantifié, il y a des moyennes qui existent pour à peu près tout. Et les nerfs, en fait, on est face à de l'aléatoire complet. Donc quand on libère le nerf médian au canal carpien, la récupération pour un même taux de compression sera extrêmement variable d'une personne à l'autre. Pour deux personnes qui seront exactement identiques d'un point de vue physiologique, de l'âge et des conditions. Et quand on suture un nerf, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on suture un nerf sur un doigt, le taux de récupération est extrêmement variable d'une personne à l'autre pour deux personnes qui sont dans des conditions identiques au départ. Le seul facteur que l'on connaisse, en fait, qui soit péjoratif, notamment dans les sutures nerveuses, mais pareil pour les récupérations nerveuses en général, y compris au canal carpien, c'est le tabac. Le tabac, ça freine énormément la récupération nerveuse. Donc, au moins pour cette raison, il ne faut pas fumer. Voilà.
Merci. La valeur de la calcivrie permet-elle seulement de mesurer un surdosage en cas de supplémentation ou bien a-t-elle une autre valeur ?
Vous pouvez répéter, je n'ai pas trouvé.
Vous pouvez répéter la question ?
Oui, merci.
La valeur de la calcivrie permet-elle seulement de mesurer un surdosage en cas de supplémentation ou bien a-t-elle une autre valeur ?
Non, la calcivrie, effectivement, elle est très importante pour justement vérifier qu'il n'y ait pas une surcharge qui pourrait être pathologique pour, entre autres, le rein. C'est surtout ça, les dépôts calciques urinaires, c'est surtout pour ça.
Ok. D'autres questions ? Alors, on demande aussi s'il y a plus de problèmes liés aux mains suite aux nouvelles technologies, aux jeux vidéo, consoles, etc. Et est-ce que les enfants sont de plus en plus tôt atteints de problèmes de mains ?
Non, en fait. Ce serait plutôt le contraire. Hein, c'est-à-dire qu'avant, les machines-outils... Alors, on était dans une France, dans un pays beaucoup plus industriel et agricole. On avait des très gros traumatismes de la main qui ont quand même tendance à se raréfier, étant donné que l'emploi bascule quand même principalement dans le tertiaire et au contraire, il y a moins de pathologies. Et les jeux vidéo, non, on n'a pas de.
Donc on peut continuer à envoyer des SMS et à jouer aux jeux vidéo.
Là. Voilà, on n'a pas d'épidémie d'enfants avec des arthroses du pouce.
Ok.
Et au contraire, c'est une très bonne rééducation, les jeux vidéo. Dans les suites de pathologie de la main.
Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? On va offrir des consoles à tout le monde, ça va être bien.
Voilà, c'est ça.
Une dernière question. Au niveau avancée technologique, est-ce qu'il y a des progrès qui sont toujours en cours? Est-ce que la science avance?
Sans cesse, oui. Alors, après, c'est sur des domaines qui sont parfois difficiles, enfin, dont l'intérêt est difficile à percevoir pour qui n'est pas du métier, mais en effet, sur les qualités de nos prises en charge, alors ça va des indications, c'est-à-dire quand est-ce qu'on opère, quand est-ce qu'on n'opère pas, des façons dont on opère, les types de sutures, les fils qu'on utilise ou les choses comme ça, et les techniques de reconstruction. Enfin, c'est un champ qui est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que c'est vrai que d'une année sur l'autre, on n'utilise pas forcément les mêmes techniques ou les mêmes indications. Donc ouais, ça progresse pas mal. Ouais.
Ok. Et ce n'est pas héréditaire?
Alors ça dépend de quoi on parle, hein, mais si il y a des, alors surtout dans la pathologie arthrosique, hein, donc les arthroses, arthrose des doigts, oui, il y a un côté héréditaire. Après, ce qui est le canal carpien, non.
D'accord. Eh bien, merci à vous quatre. Je pense qu'on peut vous applaudir. Vous avez été très, très, très précis sur le sujet. Merci à vous. Merci à l'organisation, CHU, à l'Espace Mendès France, à l'équipe technique également qui nous a permis de réaliser ce rendez-vous, à vous public aussi. Je vous rappelle que vous retrouvez l'enregistrement de cette conférence sur le site internet de l'Espace Mendès France et du CHU. N'oubliez pas de remplir la fiche d'évaluation qui est dans vos petits dossiers. Si vous souhaitez rester à l'Espace Mendès France, Christine, qu'est-ce qui se passe juste à côté au planétarium?
20h30, pièce de théâtre, lecture sur graines de vie, donc des lectures autour du thème du vivant.
Voilà. Et puis on se retrouve le 7 avril avec le prochain thème qui sera donc l'hypnose au service de la médecine. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci.